Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa numéro 1.
This is Europe number 1.
Reculez ! Les études en charge ! Eh bien, les policiers ont reculé, même les CRS se font, ont formé un espèce de toit avec leurs boucliers.
Roulez avec Europe 1.
Oui ! 48-85, Marie-Josée Perec est championne olympique.
Pierre Lescure.
Et voilà, c'est SNC qui recommence.
Voici Jacques-Yves Cousteau, que je suis particulièrement heureux d'accueillir en public, en direct aujourd'hui, avec tous les auditeurs et les amis d'Europe 1.
On va rire, on va chanter et s'amuser.
Bonjour à tous. Le Cisco avec Jean-Paul Roulant, Jacques Roulant, Aaron Kay.
Marc Tronchot.
Bonjour à tous, merci d'être au bout des ondes. J'espère que vous passez une jolie après-midi et si c'est le cas, nous allons encore l'embellir. Cette émission sera en effet consacrée à Barbara, longue dame brune, femme piano, lilliputien, auteur, interprète, artiste, dame en noir au parfum de mystère, femme qui chante.
Bois de Saint-Amand, je t'attrape, tu t'y colles, je me cache, va-toi maintenant. Un arbre pigeon vole dans le petit bois de Saint-Amand. Vous tournez l'eau ronde folle, pigeon vole, vole, vole au vent. Sur l'arbre, oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Et sous l'arbre, sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'herbe, jupon vole et s'envole nos rêves d'enfant. Mais un beau jour, tête folle, loin du petit bois de Saint-Amand. Et loin du temps de l'école, je suis partie, vole, vole au vent. Bonjour l'arbre, mon bel arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous tes branches qui se penchent, je retrouve. Y'a un arbre, si je meurs, je veux qu'on m'y couche doucement. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Y'a un arbre, pigeon vole et s'envole. Y'a un arbre.
Barbara, diffusée en direct sur Europe 1, décembre 65. Barbara qui eut avec la station une histoire d'amour ou de belle amitié, et ce n'est pas une tentative d'appropriation, vous l'entendrez et comprendrez. Barbara, elle est dans nos mémoires et dans nos cœurs depuis 10 ans, à défaut d'avoir ressuscité sur scène, mais elle manque, d'où la tentation légitime de la faire revivre 10 ans après son départ pour ailleurs. Et il se trouve que les archives de la station ne manquent pas de trésors, comme ne manquent pas ses admirateurs, amis, complices, parmi lesquels mes invités de l'après-midi, que je remercie de leur présence, qui est aussi un témoignage d'amitié. Madame Marie Schex, écrivain, auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont un dans la collection Du côté des femmes, consacré à Barbara. Bonjour madame.
Bonjour.
Barbara, dont elle fut l'assistante de 1966 à 1970, hein, c'est cela.
C'est ça, c'est bien ça.
Jean-Michel Boris, ex-directeur artistique d'Olympia, qu'on ne présente plus dans cette émission, ami des stars, metteur en scène du talent, et Didier Varro, producteur, animateur de radio, l'un des biographes de Barbara, auteur parmi les livres qu'il a dédiés aux personnalités du monde de la chanson, auteur d'un magnifique ouvrage sur Barbara dans la collection Passion, intitulé « À demain, je chante ». Bonjour messieurs.
Bonjour.
Marie Schex, je disais en vous présentant, vous avez été l'assistante de Barbara de 66 à 70, ça veut dire que vous jouiez quel rôle auprès d'elle?
je roulais. Oui, je roulais pour elle, oui.
Vous n'avez pas mal roulé, oui, d'ailleurs, avec elle.
Non, mais j'étais sa... À l'époque, on appelait ça une secrétaire. Ensuite, on appelait ça assistante. Ça faisait peut-être plus professionnel, je ne sais pas. J'ai débarqué dans la vie professionnelle de Barbara à 22 ans, et sans savoir du tout à quoi je m'attendais, en fait. Hein. On s'était rencontrés, puis elle m'a rappelé pour... Quand elle a eu besoin de quelqu'un, elle a eu sa carrière devenant... éclatant en 65. Enfin, elle avait commencé déjà avant, mais c'est vraiment en 65 où elle a eu besoin d'avoir plus de personnel autour d'elle, et elle a fait appel à moi pour... voilà.
Parce que vous avez rencontré avant.
Elle m'avait rencontré avant, oui. On s'était rencontrés.
Des rencontres que vous racontez dans votre livre, d'ailleurs.
C'est une rencontre amusante. Je l'avais évidemment entendu chanter une fois ou deux à l'Écluse en 64, donc assez tard, hein, les dernières fois où elle est passée à l'Écluse. Et puis, nous habitions dans le même pâté de maison, dans le 16e. Moi, j'habitais pas rue Rémusat, mais une rue parallèle. Et on s'est rencontrés une après-midi d'été où j'ai vu cette dame arriver sur moi. Elle est toute vêtue de blanc et regarder fixement mes pieds et me dire « Vous avez des très jolies sandales, où les avez-vous achetées ?» Et j'étais absolument pétrifiée, j'étais très intimidée. Et à la suite de ça, je lui ai répondu où je les avais achetées, mais enfin, et je ne pouvais pas lui donner parce qu'on n'avait pas la même pointure. Et à la suite de ça, elle m'a dit « Mais montez donc chez moi, parce que j'ai sûrement une robe qui doit aller avec ses chaussures. » Évidemment, on n'a trouvé aucune robe qui allait avec les chaussures, mais elle a vidé ses placards et on est devenus amis, je dois dire. À partir de ce moment-là, on a beaucoup ri. Et donc, elle a fait appel à moi quelques mois plus tard. Alors, le rôle que je jouais, eh bien, je l'ai accompagnée en tournée immédiatement, parce que c'était sa première grande tournée après le Bobino de 1965. Première grande tournée à travers la France, mais c'est avec toutes sortes d'aventures où je me suis trouvée et je m'occupais de ses affaires, de son courrier, je faisais le gorille aussi des fois.
Souvenir de première rencontre, Jean-Michel Boris.
Eh bien, la première rencontre, c'était beaucoup plus tôt sûrement que Marie, parce que je regardais un petit journal qui disait les événements qui se passaient dans Paris, et j'avais remarqué qu'il y avait une dame qui se présentait très souvent à l'Écluse, et donc j'étais la voir un jour à l'Écluse. Bon, elle n'était pas encore connue du tout, elle était sur son piano droit, elle chantait des chansons de Fraxon et d'artistes anciens. Bon, j'ai passé un très bon moment, mais ce qu'il y avait surtout, c'est que je sentais que quand j'en parlais à Bruno, il avait un refus total de Barbara. Et je pense que Marie, vous
Bruno
êtes au courant.
Bruno Coquatrix.
J'ai témoin de ça. Hein, oui,
et donc, moi, j'ai été la voir chez Félix Vitry, parce que, comme vous le savez, il y a eu un divorce entre Félix Vitry et Bruno Coquatrix, que Félix Vitry a repris Bobino à Bruno Coquatrix, et naturellement c'est lui qui a eu la chance de présenter Brassens avec Barbara en première partie. J'étais dans le promenoir, et quand elle est passée en vedette, j'y étais aussi, mais jamais je n'ai osé aller la voir en coulisses, et c'est beaucoup plus tard que nous nous sommes rencontrés. On va en parler un peu plus tard.
Didier ?
Première rencontre, je dirais que c'est en tant que spectateur. En 1978, je suis étudiant à Grenoble, j'ai 17 ans et je vois ce spectacle magnifique qui me percute vraiment absolument et définitivement. Et ma première rencontre, c'est en tant que journaliste en 1987 pour le Châtelet. J'étais alors journaliste responsable des pages musicales d'un journal qui s'appelait Globe, et j'avais donc été accompagné par le rédacteur en chef de ce journal qui n'était autre que Jean-Marc Benamou, qui connaissait très bien Barbara. Et donc nous sommes partis deux concerts au Châtelet où nous avions rendez-vous en début d'après-midi. Moi avec mon petit magnétophone à cassette pour faire une interview que je n'ai jamais pu réaliser, car Barbara m'a ouvert ses bras, m'a pris les mains, mais ne m'a jamais accepté que je puisse appuyer sur la touche record en disant « Qu'est-ce que vous voulez savoir que je n'ai déjà dit ?» J'ai déjà tout dit dans toutes mes interviews. En revanche, vous avez de belles mains. Elle m'a pris les mains, elle a commencé à me caresser les mains, elle m'a dit « Je pense que nous sommes de la même famille ». Et j'ai essayé désespérément de revenir à mon job qui était de faire une interview et de ramener une interview pour ce magazine, pour cette série de concerts au Châtelet. Je n'ai jamais réussi. En revanche, j'ai passé 2h30 dans le théâtre du Châtelet avec Barbara, qui se promenait de la scène au fauteuil du Châtelet, jusqu'aux coulisses, jusqu'à sa loge. Et je suis reparti vers 17h30 avec les bras chargés de zan et de petits gâteaux, d'ailleurs. Comme
c'est
si
très,
j'avais
très
mourir
de faim. De oui. Une femme marquée par son enfance, une enfance en fuite, c'est ce que vous écrivez, Didier Varro, en tête de chapitre dans votre livre. C'est vrai que cette femme donne l'impression d'avoir été marquée. Elle a été marquée, et plus tard, Marie Chex, vous le racontez vous, lors de certains passages en voiture dans des endroits, il y a des endroits qui évoquent des choses pour elle, d'autres pas. Il y en a certains qui évoquent énormément de choses. Saint-Marcellin, par exemple.
C'était très, très curieux parce qu'elle n'a jamais raconté son enfance, cette période. Elle disait « J'ai tout oublié. Je n'ai pas eu d'enfant, j'ai oublié. Oh. » Et bon, j'ai appris à la connaître, et on a sillonné quand même la France pour les tournées, et certaines villes, oui, elle fermait les yeux. comme Tarbes, par exemple. C'est une ville... elle ne voulait pas voir le nom des villes. Et puis, c'est un jour...
On avait dénoncé sa famille et obligé sa famille à repartir sur les routes.
Parce qu'il y a eu tout un... Il y a eu toutes sortes de villes dont ils étaient obligés de partir. Et puis, il y a des villes qui lui rappelaient des souvenirs familiaux qu'elle ne voulait pas, évidemment. Moi, je l'ai compris beaucoup plus tard. Mais là, en 68, là, on s'est arrêté. On avait passé devant Saint-Marcellin. Et quand elle a bu Saint-Marcellin, elle a dit « Est-ce que c'est le Saint-Marcellin que je connais ? Allons-y. » Je pense qu'elle n'aurait jamais décidé de retourner dans un endroit, mais puisqu'on y était, on y était. Et on s'y est arrêté. Et bon, de Saint-Marcellin, elle a fait cette chanson merveilleuse qui est « Mon enfance ». Et voilà.
En Liberté avec, c'est une émission sur Europe 1, la fin des années 60, qu'anime Jean-Serge, important responsable de la station. En Liberté avec Barbara, extrait juillet 68.
Mais oui, Barbara, pour vous souvenir, tout à l'heure, vous avez chanté pour la première fois une chanson qui évoque votre enfance.
Oui. Je suis d'ailleurs très étonnée, je demande pardon de vous couper la parole. Quand, une fois que mes chansons sont écrites, je suis parfaitement étonnée d'avoir écrit ça. Cette chanson sur mon enfance, rarement je n'en parle et rarement je pense à mon enfance. Enfin, quoi que finalement on se promène avec son enfance. Enfin, le présent et c'est le passé. Enfin, je veux dire qu'on est griffé par son passé. Mais je dois dire que quand je chante cette chanson, quand je la relis, je suis surprise. J'ai l'impression que c'est une autre qu'il l'a écrite.
Cette chanson, qui bien sûr évoque votre enfance, elle prouve aussi, une fois de plus, votre refuge dans la nature.
Hein? Oui.
La nature a beaucoup d'importance.
Les arbres, pour moi, c'est une chose très importante. Et quand je suis très fatiguée, enfin maintenant je le fais moins, mais je l'ai fait très longtemps, très souvent, j'allais me mettre le dos nu contre un arbre, et c'est vrai qu'on sent la vie de cet arbre qui vous pénètre et qui vous redonne une force nouvelle, un sang nouveau.
Puisqu'on en a parlé, bien sûr, on va vous demander le... Hein ?
Oui. J'ai tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant, comme au passé, de marcher les tempes brûlantes, croyant étouffées sous mes pas, les voix du passé qui nous hantent, et revient le sonner le glas. Et je me suis couché sous l'arbre, et c'était les mêmes odeurs, et j'ai laissé couler mes pleurs. Mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance.
Qu'est-ce que ça vous fait, si je puis me permettre une question un peu personnelle, de réentendre la voix de Barbara?
Mais ça m'émeut. Ça m'émeut énormément. Après la mort de Barbara, j'ai pas pu l'écouter. Je crois que pendant 10 ans, j'ai pas pu l'écouter. Et je l'ai réécouté beaucoup. Pour écrire ce livre-là que je viens de refaire. Surtout d'écouter sa voix de ce temps-là.
Jean-Michel ?
Non, mais j'ai un état d'esprit un petit peu similaire, c'est-à-dire que j'ai donc participé physiquement au concert de Bobino, ensuite le Musicorama de l'Olympia, qu'il a vu revenir à l'Olympia, puis les deux passages de l'Olympia, et puis après, j'étais la voir naturellement au Zénith, j'étais la voir partout où elle va suivre, et par exemple, il y a un spectacle qui m'a horrifié. Je le dirais, je vais sûrement me faire assassiner pour ça, mais le spectacle de Mogador, j'étais vraiment complètement bouleversé parce que je n'avais pas la Barbara que j'aimais, c'est-à-dire que pour moi, elle en faisait 3 tonnes, la voix n'était pas là. Et par contre, que je l'ai revue au Châtelet, j'ai retrouvé ce personnage. Et donc, c'est vrai que c'était pas toujours évident.
On vient de réentendre le début de cette magnifique chanson qui évoque l'enfance de Barbara. Ce qui est étonnant, Didier Varro, c'est qu'on a l'impression que chaque chanson, ou presque, de Barbara a une histoire, qu'elle est porteuse d'un symbole ou d'un message.
C'est tout à fait vrai, et c'est pour ça que je crois qu'il faut redire ce qu'elle a elle-même répété à l'infini. Elle n'était pas chanteuse, elle était une femme qui chante. Je crois que la différence est vraiment très importante. Une chanteuse, c'est un personnage qui peut interpréter des chansons, qui peut en écrire, mais où l'imbrication entre la vie personnelle, l'intimité, les griffures dont elle parlait dans cette interview, et la matière première artistique qu'il faut transcender n'est pas souvent évidente. Chez elle, il y avait vraiment cet état d'esprit, c'est-à-dire que se mettre au travail pour écrire une chanson, et Dieu sait qu'il fut long le temps pour se mettre au travail et écrire ses propres chansons avec ses propres mots, puisque Barbara au départ était interprète et tenait beaucoup à ce statut d'interprète. Peut-être aurait été telle chanteuse encore aujourd'hui. Mais le parcours du combattant, qui signifie être une femme qui chante, c'est-à-dire être possédée par sa vérité pour la transcender sur du papier, puis sur une gamme et sur un clavier, c'est toute une vie. Et je crois qu'effectivement, de là, toutes les chansons de Barbara ont une singularité, une force et une puissance qui appartiennent à cette vie de femme qui chante.
Mais à partir du moment où elle commence à écrire, elle commence à se confier, elle commence à partager à son public et d'une certaine manière à se libérer elle-même.
Mais vous savez, ce qui est amusant, excusez-moi, je ne veux pas vous interrompre, ce qui est vrai, et elle le dit elle-même comme on l'a entendu, c'est qu'elle ne s'est absolument pas rendue compte du chemin qu'elle parcourait pendant qu'elle le parcourait. Et quand elle dit « c'est une autre qui écrit ces mots », quand j'entends les chansons, j'ai l'impression que c'est une autre qui l'a écrite. Je crois qu'elle ne s'est pas dit un jour « je vais écrire mes chansons ». C'est venu petit à petit, et c'est venu en même temps qu'effectivement elle se libérait. Mais quand on se libère, on le sait dans l'écriture aussi, on se libère pas parce qu'on se dit qu'on se libère. On se rend compte beaucoup plus tard qu'on s'est libéré qu'on s'est déchargé de poids. Mais elle écrivait souvent la nuit, souvent dans un état de somnambule. Et le lendemain matin, elle retrouvait les pages, elle retrouvait éparpillées au pied de son piano et les pages, parce qu'elle écrivait maniaquement sur des grandes pages de cahiers à carreaux. Et elle se disait, tiens, j'ai dû écrire quelque chose cette nuit. Et alors elle se mettait au piano et elle commençait à retrouver la petite musique, et puis il y avait une chanson au bout de ça. Elle demandait, c'est vraiment une chanson? Bah oui, c'est une chanson. Mais donc ça rejoint, elle a commencé à dire, à pouvoir exprimer ses émotions et les moments de sa vie qu'elle n'avait pas envie de raconter finalement. C'est pas quelqu'un qui a eu envie de raconter.
C'est une femme possédée, je pense. On parle souvent de la main de Dieu ou de la main de l'indicible, si vous préférez, qui est au-dessus des artistes comme ça. Mais elle était véritablement possédée, y compris d'ailleurs dans la musique, parce qu'on a tendance à parler des textes. Mais quand elle parlait des musiques, il y avait quelque chose de l'ordre du travail du peintre sur la toile, avec cette façon très picturale de parler, de dire fais-moi soleil, fais-moi bruit, fais-moi du froid, fais-moi du gris, avec des couleurs, avec des odeurs, avec des sensations. Tout ça était très, très précis. Et en même temps très possédée, c'est une femme hantée par son art.
La date de naissance de la chanteuse Barbara, telle qu'on la connaît, telle qu'on l'a photographiée, la dame en noir, c'est quand?
Moi, j'ai du mal avec cette expression, la dame en noir, je sais pas vous.
Oui, non, mais la dame en noir, ça le faisait rire en même temps.
Oui.
Elle a toujours été la dame en noir. Quand elle était à Bruxelles, elle s'est aussi habillée en noir.
Oui, parce qu'elle a aussi été à Bruxelles.
Dans les années 50. Mais la celle qu'on connaît, elle est née à l'Écluse, petit à petit. Sauf que la différence, c'est qu'elle avait une jupe courte. Mais le caraco noir en velours, elle l'a eu dès le début. Quand on voit les photos, c'est elle qui a inventé ce vêtement.
Puis, c'est la chanteuse de minuit. Donc, c'est une chanteuse qui naît à l'ombre.
Oui, et puis c'était le noir était sa couleur, elle a toujours été. Mais enfin, celle qu'on a vraiment connue, c'est les années 60, quoi. C'est les débuts, c'est les premières chansons.
Disque avec des roses.
C'était le
disque entièrement d'elle. Voilà.
Oui, oui.
J'avais eu auparavant des 45 tours EMI, mais qui représentaient des chansons qu'elle interprétait uniquement, tandis que là, c'était vraiment Barbara.
Avec ses mots.
Celui-là, je l'ai entendu, je ne sais pas, combien de milliers de fois.
Marc Tronchot.
Les enfants d'Europe 1, spécial Barbara en compagnie de Marie Chex, écrivain, ex-assistante de Barbara de 66 à 70, Jean-Michel Boris, ancien directeur artistique de l'Olympia, Didier Varro, l'un des biographes de Barbara, producteur, animateur de radio. On disait que la chanteuse était d'une certaine manière née dans ce petit cabaret qui s'appelle l'Écluse et où elle était la chanteuse de minuit. Et puis va venir le temps des débuts de la notoriété, puis de la notoriété, Bobino petit à petit, donc jusqu'à ce soir de septembre 65. C'est le public de ce soir-là qui lui inspirera d'ailleurs l'un de ses plus beaux textes, extrait d'un Musicorama spécial Barbara diffusé sur Europe. «
plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines. Alors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, la plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, et j'ai tourné bien des pages, sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà, et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importe décembre, si c'était pour vous. Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route, celle-là qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure si ce soir je vous jure que pour vous je l'ai faite à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres que l'hiver et la neige.
À Bobino, elle était longue la route. Pourquoi Jean-Michel Boris sera-t-elle cette salle de Bobino, sera-t-elle la salle de la consécration pour Barbara et pas l'Olympia? Vous disiez tout à l'heure, Bruno Coquatrix, ne croyait pas en Barbara. Pourquoi il croyait pas en Barbara?
Je ne sais pas. Il y a des gens pour lesquels avec lesquels il n'avait aucune affinité. Et le grave problème, c'est qu'il le disait haut et fort, et il est évident que Barbara, elle l'avait entendu à différentes reprises, et que, ayant entendu Bruno la parler d'elle comme de quelqu'un de la rive gauche, donc c'était pas...
Un peu ringarde, quoi.
C'est le côté intellectuel, c'est ça qui le gênait.
Il croyait pas qu'elle réussirait dans une grande salle, même pas à Bobino,
il y croyait pas, donc j'étais effectivement le seul en face de lui. Et puis...
Vouée à la rive gauche. À la rive gauche.
Chanteuse confidentielle.
Oui, c'est ça. Il a dit des tas de choses ont fait que...
Chanteuse de cabaret.
Elle en avait gros sur la patate, comme on dit. Hein. Ouais. Elle ne voulait plus venir, elle ne voulait absolument pas venir à l'Olympia. Et un jour, j'ai parlé à Jean-Serge, qui avait l'oreille de Barbara.
Directeur des programmes.
Qui était un type avec lequel, effectivement, Bruno non plus n'avait pas d'accroche. Donc, pour les mêmes, à mon avis, les mêmes raisons, c'est toujours pareil. Et je lui dis, écoute, Jean, faites-moi un plaisir, c'est vraiment indispensable que Barbara fasse l'Olympia, un musicorama. Et il a arrangé ce musicorama, lequel elle est venue, et je pense que Marie pourra nous en parler beaucoup mieux.
Non, pas mieux, mais...
Mais je pense qu'elle est venue parce que Jean-Serge lui a demandé. Et puis, là, elle a réglé deux ou trois comptes avec Bruno quand il est venu lui dire bonjour, je crois, dans les coulisses. Ça s'est passé un peu froidement. Et après, on a pu refaire, c'est l'année suivante, on a pu refaire une série avec elle.
Et puis, c'est aussi à cette période, à la fin des années 60, que se produit un petit peu par hasard la rencontre avec Lucien Maurice.
Ah oui, c'est ce que j'allais dire. L'élément essentiel, ça a été Lucien Maurice.
Qui est lui,
Jean-Serge aussi, qui était là, bien sûr. Mais elle disait, je ne ferai jamais l'Olympia.
Après elle pensait aussi sur une liste rouge à Europe.
Voilà, c'est ça. Et il faut parler aussi de Charlet Marouani, qui est entré en scène à ce moment-là, en 67, fin 66. Et Charlet avait l'idée fixe de lui faire faire l'Olympia. Et elle disait, jamais je ne ferai l'Olympia, monsieur Coquatrix ne m'aime pas, et je n'aime pas ce monsieur, et il n'en est pas question, etc. etc. Et elle disait aussi, je suis sur la liste rouge à Europe numéro 1. Et après, c'est juste après le Bobino de 65, elle a été invitée par Europe numéro 1. Parce qu'elle, en fait, elle, on la passait pas sur Europe, ce qui est vrai, ce qui était vrai. Ou peu. Enfin, elle considérait, je sais pas si elle écoutait tout le temps Europe, mais enfin, elle avait ses espions, en tout cas. Elle considérait que Europe ne l'aimait pas non plus. Et puis, on l'invite à Europe, et elle arrive à Europe. Et là, je me souviens très bien, parce que j'étais témoin de la scène, et elle arrive absolument dans tous ses états en disant appelez-moi le directeur, appelez-moi monsieur Lucien Maurice, je veux lui parler. Et puis quelqu'un lui dit, mais regardez, mais monsieur Lucien Maurice est là sur le trottoir devant de rue François 1er, devant la station, il est... Et j'oublierai jamais, elle a dit, mais c'est lui. Et elle est allée vers lui, et ils se sont tombés dans les bras. Et à partir de ce moment-là, ils sont devenus amis intimes, et ils se comprenaient. Et lui, bon, alors...
Là, lui était déjà le compagnon de Dalida à ce moment-là. Hein.
Il ne l'était plus.
Il n'était plus.
Il était marié. Et là, elle lui a commencé à lui dire, mais pourquoi je ne passe pas sur Europe ? Alors il lui a dit, mais on va arranger ça.
Alors écoutons Barbara toujours avec Jean-Serge, juillet 68, quelques mois après le premier Musicorama diffusé par Europe numéro 1.
Il y a eu, entre Europe et vous, et grâce à vous, une espèce d'explosion qui s'est passée le jour du Musicorama. Et depuis ce jour-là, il s'est passé quelque chose de nouveau.
Il y a eu pour moi, grâce à Europe, ce Musicorama qui n'aurait évidemment jamais existé. C'est-à-dire qu'il y a eu, ce miracle qui a été ce passage pour moi à l'Olympia. L'Olympia qui était une porte, pour moi, fermée, affectivement parlant, et qui s'est ouverte si généreusement et si bellement le soir du Musicorama grâce à Europe.
En fait, il s'est passé ce soir-là une espèce, pour employer le langage habituel de Barbara, il s'est passé une extraordinaire soirée d'amour entre plus de 2000 personnes et les chansons de Barbara. Et je dis exprès entre les chansons de Barbara, parce que Barbara, elle est venue à travers ses chansons et puis elle s'est offerte ensuite à nous. Elle nous a dit tout ce qu'elle avait envie de nous dire, en dehors même de ses chansons. Et je voudrais maintenant que vous nous promettiez de nous dire... aussi, tout ce que j'ai envie de dire.
Je promets.
Il y a une petite chose qu'on a envie tous de vous demander. Il y a, depuis qu'on vous connaît, et ceux qui viennent de vous découvrir, il y a dans votre allure, Barbara, quelque chose, dans votre allure extérieure, hein, il y a quelque chose toujours d'un petit peu insolent, volontairement insolent, parce que vous avez l'élégance de ne pas vous soumettre aux habitudes.
C'est-à-dire que je connaissais assez mal ce métier, finalement. Moi, j'ai toujours eu le désir de chanter, de faire ce métier. Je ne savais pas exactement, je le sais un peu mieux maintenant, ce que ça comportait, ce que ça voulait dire. Ce qui fait que quand les choses ont éclaté il y a 3 ans, j'ai continué à avoir ce comportement que j'avais depuis 17 ans, ce comportement qui faisait dire elle a mauvais caractère, etc. Et qui a fait dire, le jour où les choses ont éclaté, elle a une personnalité. Je ne sais pas, je crois que je n'ai ni l'un ni l'autre, en fait. Enfin, je veux dire que c'était comme ça et que je ne peux pas être autrement.
Didier Varro, la rencontre qu'on évoquait à l'instant, Lucien Maurice, Barbara, vous en parlez dans votre livre. Vous avez une autre approche. Je veux dire, s'ils se sont compris, c'est que d'une certaine manière, ils se ressemblent.
Oui, je parle de la beauté des laits, en reprenant évidemment une expression dont le copyright appartient à Serge Gainsbourg. Mais je crois qu'il y avait quelque chose comme ça de singulier chez ces deux êtres, deux oiseaux, un peu à la fois dedans et dehors. Et je crois que Barbara avait tout de suite été très intuitive, je pense aussi. C'est ce qui fait qu'elle aimait ou elle n'aimait pas les gens. Donc son intuition l'a menée spontanément dans le cœur de cet homme, Lucien Maurice, dont elle connaissait le parcours, dont elle savait que c'était un homme d'abord épris de jazz, qu'il avait succombé aux sirènes de la marchandisation et ô combien nécessaire pour que la musique devienne, se structure et devienne une industrie. Et je crois que elle comprenait spontanément les tourments de cet homme, qui était un homme complexe, à la fois lunaire et solaire, comme l'était Barbara.
Jean-Michel Boris, Bruno Cocatrix, il est allé dans la loge après le spectacle de Barbara.
Non, il ne pouvait pas faire autrement, c'était difficile. Elle venait de faire un triomphe, c'était exceptionnel. Alors, je n'ai pas assisté à l'entretien, mais je peux l'imaginer un tantinet, parce que connaissant Barbara et connaissant Bruno, lui, il est arrivé en essayant de faire du charme, hein, avec son œil à moitié fermé comme ça, et ce charme qu'il possédait indiscutablement, mais je ne sais pas si ça a bien fonctionné sur Barbara, en tout cas tout de suite. Après, je crois qu'elle l'a accepté tel qu'il était, elle a parfaitement compris que, ma foi, c'était pas un job facile que de conduire l'Olympia. Je pense qu'elle a changé un petit peu d'avis, et surtout, à mon avis, grâce à Charlie Maroni, qui a été un moteur vraiment essentiel dans ce changement.
Est-ce que je peux vous poser une question de l'ordre de l'anecdote? Mais il paraît qu'elle avait exigé que sur le contrat, Bruno Cocatrix ne soit pas présent dans les coulisses. Or, l'image que l'on a dans l'inconscient collectif, Bruno Cocatrix et l'Olympia, c'est Bruno Cocatrix dans l'Olympia, vraiment en temps les lieux.
Non,
quoi.
Mais c'est même encore plus drôle que ça. C'est-à-dire qu'elle avait exigé pendant les répétitions du Musicorama, là on parle du Musicorama en 67, de ne pas apercevoir le bout du nez, ni le bout du cigare de Bruno Cocatrix. Et lui, il ne pouvait pas s'empêcher de venir quand même dans ses rideaux. Puis il avait dit, et moi je l'avais entendu dire, mais quand même, elle m'interdit les coulisses de mon établissement. Et alors, mais c'était devenu un jeu, et elle le voyait de loin, elle lui disait, ah, attention, oncle Bruno, je ne veux pas vous voir, voilà, parce que petit à petit,
le Bruno.
Alors, le soir du Musicorama, elle faisait donc les deux parties. En première partie, elle avait surtout des chansons des autres, et elle finissait par un ébouriffant tango. Le grand frisé. Non, c'est pas un tango, excusez-moi, c'était le grand frisé.
Le grand frisé, ouais.
Qui était extraordinaire. Bon. Et lui a dû être complètement séduit déjà pendant cette première partie. Et il s'est précipité et avec un bouquet de fleurs, il a voulu déjà la voir à l'entracte. Et elle l'a fichu dehors. Je veux dire, elle l'a pas laissé entrer et elle lui a fait dire, par moi d'ailleurs, qu'il n'était pas question qu'elle voie quiconque, même l'oncle Bruno, pendant un entracte. Il n'en était pas question. Et alors, donc, il est parti, il avait pas l'air très content, mais enfin, il était, bon, bougon, disons. Et alors, à la fin, il est revenu et là, évidemment, et il lui a dit cette chose formidable et il lui dit, ça y est, j'ai compris.
Donc
il a fallu qu'il la voie triompher chez lui. Et là, après, ils étaient très copains.
Marc, Didier. 12 rappels sur ce spectacle-là. C'est le début de la légende de Barbara. Il y a évidemment la première partie de Brassens à Bobino, mais il y a ces 12 rappels.
Oui, non, mais le Musicorama était une chose extraordinaire.
Qui vont extraordinairement inscrire Barbara dans cette légende et dans ce rapport unique entre un public et l'artiste. Oui.
Ça a été donc une réconciliation. Ça a été aussi une réconciliation avec Europe 1, qu'elle a appris à mieux connaître. Ensuite, elle a fait des émissions avec Lancelot.
Oui.
Elle a même organisé des...
Lancelot,
des...
c'est vrai. Hein oui, non, il y a eu plein de choses.
Le concert de l'Alhambra, à Bordeaux.
Ah, mais oui,
il est né à Europe 1, dans une émission de Lancelot.
Absolument.
Des étudiants qui ont appelé pour dire qu'ils s'ennuyaient à Bordeaux. Elle leur a dit, j'arrive. Et quelques semaines après, elle faisait un concert à l'Alhambra, dont nous avons bien évidemment tous les morceaux. Elle aime la scène, elle relativise le succès. Extrait de 5, 6, 7 sur Europe 1, en 65, interview menée par Jacques Horowitz.
Je ne peux pas expliquer, parce que c'est inexplicable, le phénomène de la scène, finalement. Le succès, ça n'existe pas. C'est-à-dire, le succès existe au soir. Mais le lendemain peut parfaitement tout annihiler. Annihiler, c'est français, je ne sais jamais. Tout défaire. Vous comprenez? Chaque jour est un recommencement. Oui, je sais, c'est assis sur... C'est-à-dire que le jour où vous entrez en scène, avec un nom, vous n'y entrez pas de la même manière. Vous y êtes attendu. Je sais, c'est à ça que vous pensez.
Et l'autre phénomène, c'est que Barbara a fait 3 semaines à Bobino récemment. Il y a 5 ans, Barbara chantait déjà. Est-ce qu'elle aurait pu faire 3 semaines à Bobino?
Bien sûr que non, mais c'est ça que vous appelez, c'est ça que vous appelez le succès, évidemment. Mais à la fois le succès, on dit aussi quelquefois, mais alors tout va très bien maintenant, ça va bien, vous n'avez pas peur. C'est pas vrai. Plus les choses vont, et plus les choses, c'est angoissant. Ça n'est plus la même angoisse, mais plus on a peur. Moi, il n'y a pas un soir où je chante et où je me demande, je m'étonne toujours qu'il y ait du monde d'abord qui vienne me voir. Et je me demande s'il va y avoir du monde. C'est fou. Cette chose, c'est très angoissant. Et puis, il ne faut pas décevoir, parce que les gens attendent de vous tellement de choses. Le premier soir, justement, où je suis entrée sur scène à Bobino, là, en vedette, fais-je horreur du mot, mais c'est comme ça. C'était une chose terrible, parce que c'était... Il fallait... D'abord, il y avait une journée, il y avait tellement de choses autour, on attendait ça, avec que je n'avais pas le droit de décevoir. Vous comprenez, c'est très grave. Enfin, c'est grave et c'est pas grave et c'est rien, parce que finalement, tout ça n'est rien du tout. Il y a un côté terrible du métier. Le succès est une chose extrêmement lourde et terrible. C'est un viol. Et moi, au fond, je déteste ce métier, si vous voulez, d'une certaine manière.
tout ce qu'il y a autour de ce métier. Ce que j'aime plus que tout, c'est être en scène, mais on ne peut pas vivre en scène. Vous comprenez, c'est très difficile. Moi, j'y vis déjà le maximum. C'est-à-dire que quand je chante, j'arrive à 5 heures et je ne bouge plus du théâtre jusqu'à minuit. Enfin, je veux dire, jusqu'au moment où je sors de scène.
Est-ce que vous pensez qu'un jour, Barbara aura des fans qui se rouleront par terre, qui lui arracheront ses boutons?
Non, jamais, je pense pas, mais je vais vous étonner, j'ai des fans. Vous comprenez, ce sont les mêmes gosses qui vont voir Adamo, qui vont voir Hallyday. Ce sont les mêmes gosses qui viennent me voir et qui disent on aime Hallyday, on t'aime et pour telle et telle raison. Et ils viennent, je sais qu'ils crient quand ils vont voir Johnny et qu'ils font silence quand ils viennent me voir.
Ils ne tapent pas encore des mains.
D'une façon différente, parce que moi je ne suis pas quelqu'un pour qui... Vous comprenez, je ne sais pas. Et puis enfin, il y a une espèce de respect qui fait que je suis quand même quelqu'un de beaucoup plus âgé que ces enfants-là, et que c'est pas du tout la même chose, mais c'est le même public, mais qui vient sous des angles différents, c'est tout.
Marie Chex, elle parle de ce public comme elle parlerait de ses enfants. Oui. Est-ce qu'il y avait un désir d'enfant chez elle?
Oui, certainement. Je crois qu'il y avait surtout un regret de ne pas en avoir eu. Plus que, je dirais, plus qu'un désir d'enfant.
Marc Tronchot.
Les enfants d'Europe 1 rendent hommage à Barbara 10 ans après sa disparition, en compagnie de Marie Chex, qui était son assistante pendant quelques années, en compagnie de Jean-Michel Boris, ex-directeur artistique de l'Olympia, et de Didier Varro, producteur animateur de radio et un des biographes de Barbara. Le problème qu'elle peut avoir avec elle-même, c'est un problème avec son physique. Elle se trouve...
Elle détestait son image. Mmh. Elle disait, il n'y a pas que moi. Enfin, je suis laide, je suis affreuse. Comment pouvez-vous supporter ça? Je dois faire peur aux enfants. Mais ça, c'était aussi. C'était pas un caprice de dire ça. C'était pas une pause. Elle le pensait vraiment. Mais d'un autre côté, personne comme elle n'a su se mettre en beauté, se mettre en scène et faire aimer son image. Donc c'était très, très ambigu là aussi.
C'est le public, dira-t-elle, qui lui aura permis de mieux s'accepter. Retour avec Jean-Serge en 68.
Je crois que je me connais assez bien et que je m'accepte très mal. Mais que je m'accepte mieux pourtant depuis qu'il y a cet amour qui me vient du public. J'aime pas ce mot public, mais enfin qui me vient de cet amour qui m'a rendu, si vous voulez, qui m'a rendu ma tendresse, enfin qui m'a enlevé cette agressivité qui était une crainte, enfin qui est d'ailleurs, et qui m'a permis d'être enfin une femme douce. Tout cet amour donné.
Barbara, vous avez parlé d'agressivité. Est-ce que c'était une attitude de protection?
Oui. C'était une très grande timidité, une très grande crainte que j'ai toujours, que j'ai pu vaincre un peu grâce justement à cet éclatement.
Et est-ce que vous réussissez à vous plaire à vous-même?
Non.
À vous aimer un petit peu, non?
Non, bon, je veux dire que je ne suis pas extrêmement séduisante, enfin, il faut dire.
Ce qui est très curieux, c'est que c'est une femme dont on dit qu'elle est d'une beauté absolue aujourd'hui, d'une modernité physiquement. Hein. Oui. Beaucoup de femmes aujourd'hui, y compris dans les magazines, ressemblent. Absolument, il y a la coupe Barbara, il y a le profil Barbara. Quand moi j'ai eu la chance de la rencontrer, elle était dans une relation de séduction. Et c'est très étrange de voir qu'elle, sincèrement et réellement, elle ne s'aimait pas et qu'elle ne pensait pas que son corps et son physique puissent être une arme de séduction.
Était trop différente, elle se sentait trop différente, parce que c'est une question de mode et d'époque aussi, oui.
La solitude, 1980, Barbara est l'invitée de Christian Barbier sur Europe.
Le fait d'être seul, tu sais bien que c'est un grand luxe. Je veux dire, si chacun de nous pouvait avoir une solitude quelque part, il y a des gens, pas toujours, pour rejoindre l'autre, ce serait fantastique. Je veux dire, tu comprends, c'est terrible quand t'es l'un sur l'autre, parce que t'étouffes les passions, t'étouffes l'amour, au bout d'un moment, tu vois, c'est nécessaire pour chacun de nous, c'est une respiration, la solitude. C'est une force, c'est aussi très douloureux, c'est aussi peut-être un manque de courage à vivre à deux, ou un manque de courage, mais finalement, seul pour seul, c'est mieux d'être seul que seul à deux ou seul à mille, je veux dire. Ce serait fantastique qu'on ait tous le droit d'avoir cette respiration-là. Mais je veux dire, quand tu montes dans une maison, quand tu rentres chez toi, les gens qui rentrent le soir, leurs problèmes, etc., qui ne peuvent pas se retrouver, ça, c'est terrible, parce que tu te récupères, je veux dire. Moi, c'est un grand privilège, je me récupère, et plus tu te récupères, plus tu peux aller vers les autres. Si tu cries avec tout le monde, tu n'entends pas, puisque tu cries aussi. Mais si tu es dans un silence, qui peut être une solitude, ça, alors là, tu peux être beaucoup plus attentif aux autres, ça ne veut pas dire que tu peux être plus positif, puisque malheureusement, personne ne peut rien pour personne, mais je veux dire, au moins, tu entends. C'est impossible d'écrire sans observer, je veux dire, ou alors tu vis dans, dans une petite bulle. Tu ne peux pas traverser ce monde qui est complètement une déchirure sans en être. Sans, tu comprends, tu ne peux pas. C'est ça que je voudrais te dire, c'est que si tu t'éloignes, si tu es dans un silence et en solitude, tu es beaucoup plus attentif à tout ce qui se passe. Mmh. Bon. Et puis il y a aussi que face à tout ce qui se passe, même si ça te bouleverse, tu as envie de l'écrire, tu te dis, enfin, je parle pour moi, ça me paraissait tellement dérisoire, j'arrivais pas à dire parce que c'était tellement plus fort que la façon dont je vais lire, tu comprends ce que je veux dire, que j'arrivais même plus à écrire. Enfin, c'est, de toute façon, j'écris, j'ai pas quelqu'un qui écrit, mais j'arrivais pas à écrire parce que il s'est passé, il se passe dans le quotidien des choses tellement énormes, tu vois, au sens énorme, tellement terrible, terrifiant, que tu te dis quoi, je vais prendre un petit stylo puis je vais écrire ça. C'est très en dessous ce qui se passe et tu sais pas ce qu'il faut faire, parce qu'en fait c'est ça, tu sais pas quel est le chemin, tu sais pas ce qu'on pourrait faire et comment on pourrait le faire.
Mais tu y as pensé, je veux dire, tu aimerais bien faire quelque chose.
Ben, j'aimerais bien, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je pense que quand même, peut-être, il y a seulement un combat dans le quotidien qui est celui, parce qu'il n'y a pas que les grandes causes, il n'y a pas que les grandes choses, qui est peut-être que de ne pas tricher, d'être sa vérité, de ne pas faire semblant, de ne pas appartenir à des chapelles qui que, de garder sa liberté de penser autant qu'on puisse avoir sa liberté. Ça, c'est important, et de savoir que bon, il y a des gens qui meurent très loin, mais il y a aussi le type qui crève de faim à la porte à côté. Ça, c'est important, je veux dire, aussi, tu vois.
Et ça, c'est effectivement très important, parce que seule peut-être, mais pas du tout indifférente. Et pas indifférente du tout au malheur des autres. Et ça, depuis sa toute jeune enfant.
Elle a toujours ressenti ça. Non, moi, je suis très, très, très émue par ce qu'on vient d'entendre là, parce que c'est tellement vrai, c'est tellement sincère, et elle dit là, hein, elle dit les choses de façon tellement personnelle, c'est une telle vérité, elle le dit elle-même, et c'est tellement vrai. Et bon, et quand on songe ensuite à ce qu'elle a fait dans son action contre le sida, je veux dire...
Il y a eu les mal logés,
les enfants, les enfants, et puis bon, quand malheureusement le sida...
Les prisons également.
Les marqués, voilà, et c'était lié ensuite...
La condition des femmes...
Elle était capable de dire, j'arrête un an, et je ne veux pas qu'on en parle, mais je vais aller chanter dans les prisons, et personne n'en a parlé. Elle n'a pas rameuté les médias à ce moment-là.
Elle n'a pas fait de communication.
Non.
C'était pas son genre. L'engagement de Barbara pour aider les autres, elle l'évoque en 96 sur cette antenne avec Michel Field.
Ce qui met le plus en colère aujourd'hui, c'est l'inégalité des choses, le type qui crève dans la rue et celui qui et moi qui suis là dans ma maison, et tu vois ce que je veux dire, et de pas savoir où est le chemin pour ce qu'il faut faire. Parce que c'est très bien, on en parle tous, tout ça, mais moi, il y a des fois où je sais pas où est le chemin. Bah alors qu'est-ce qu'on fait? On va donner de l'argent, etc. Mais c'est pas ça, c'est pas suffisant. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas, c'est ce qui désespère, c'est que tout à coup tu te lèves, t'es dans ton bain chaud, machin, tu dors, etc. Alors, je vais pas faire dans le social, là, je vais pas te faire et je vais surtout pas me servir du social pour faire cette émission avec toi où on est là parce que j'ai sorti un disque. Mais quand même, c'est insupportable, quoi, cette vie-là. C'est insupportable, tu peux pas ne pas avoir honte d'exister, tu peux pas. Comment c'est possible? Et moi, je sais pas ce qu'il faut faire. Parce qu'on me dit beaucoup de choses, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, mais c'est pas ça, on sait pas, quoi. Je veux dire. Et puis les choses continuent. C'est de regarder les choses, de les voir comme ça, comme un western, de voir le malheur à la télé, puis d'aller se coucher. Et de rien pouvoir faire. Que d'être attentif, que d'être vigilant, et que de le savoir tous les matins. Alors, moi, on me dit, ah oh, oui, mais alors c'est triste. Non, c'est pas triste. Il faut quand même savoir mettre son pied par terre. Je te dis pas qu'il faut tous les matins penser à ça. Mais que quelque part, si tu sais pas ça, mais alors je vais dire, mais ça, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je sais pas, il faut être attentif, il faut être vigilant, il faut être en colère, il faut se révolter des choses. Bon, c'est pas de. Ça, pour les uns, ça peut être de défiler, pour les autres, c'est autre chose. Mais c'est pas pour être en paix avec sa conscience, tu vois. C'est insupportable. Il n'y a pas de prévention contre les choses. Contre la misère, il n'y a pas de prévention. On est bien d'accord. Mais sur les choses et les préventions, il va les faire avant. Tout à coup, on s'aperçoit des choses. Comment? J'entends, là, je vois qu'on dit que dans les prisons, il y a des préservatifs. Attends. En 92, dans les prisons, il n'y avait pas de préservatifs. Moi, j'en ai amené. Il y avait peut-être certaines prisons. Pourquoi il n'y avait pas de préservatifs? Parce que, effectivement, les détenus ne voulaient pas être taxés. D'homosexualité, parce que c'était effectivement une homosexualité de circonstance qui arrivait là. Il y avait du doliprane ou même de l'aspirine pour soigner la séropositivité, etc. Tu vois, je veux dire, c'est aujourd'hui, c'est parce que là, tout à l'heure, j'ai vu dans l'IB, mais attends, on dit que la drogue, mais attends, on le savait. Le sida, il n'est pas dans les prisons. c'est pas dans les prisons qu'il est le sida. C'est quand c'est arrivé de l'extérieur. Hein. On a laissé à un moment donné faire une discrimination sur les détenus, mais c'est pas comme ça. C'est pas ça. Et alors aujourd'hui on dit ah bon mais je vous assure la drogue est dans les prisons. Bon, mais attends. Même les gardiens, il y a longtemps qu'ils disent que la drogue est dans les prisons, qu'ils le savent, que certains d'eux sont achetés, qu'elles passent même derrière des timbres-poste. Enfin, c'est pas. Moi, je suis allé en prison, chanter en prison. On m'a proposé de la drogue. Bien sûr qu'elle y est.
Grande capacité de révolte. Hein.
Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle nous manque aujourd'hui. Hein. On aimerait bien l'entendre. Redire tout ça.
Moi, je suis très ému de réentendre cette interview. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et surtout, le manque est là, et en même temps, ce qui est le plus salvateur dans tout ça, c'est cette colère, cette leçon qu'elle nous laisse en héritage. Rester en colère, c'est la meilleure façon de vivre et d'avancer, même si ça fait peur, parce qu'elle disait, j'ai peur, j'avance, mais j'ai peur, mais c'est ça. Elle me disait, je suis en colère et j'espère mourir en colère. Vous rendez compte de ce que ça veut dire, mourir en colère? Ça veut dire qu'on a renoncé à rien.
Quelles sont les images, l'image forte que vous retenez chacun d'entre vous de Barbara quand vous y pensez, quand quelque chose vous y fait penser, Marie?
C'est difficile de répondre à une question comme ça.
Il y en a plein.
Il y en a beaucoup et
la photo de qui a fait une affiche célèbre, peut-être.
La photo où on voit le bout de son nez et le bout de son pied.
Oui.
Oui. Ben, ça, c'est une photo de Marcel Himsand, hein, qui était une superbe photo.
Le rideau, derrière le rideau.
Oui,
Jean-Michel.
C'est vrai que je crois que c'est la photo qui reste. Parce que ça veut dire qu'on est quand même dans le spectacle avec ce rideau rouge significatif de ce qu'elle a quand même aimé.
Elle reste complètement présente, elle reste présente, actuelle, vivante. Enfin, c'est ce que je ressens.
Didier.
Pantin et Barbara adossée à sa roulotte, parce que je trouve qu'elle est à ce moment-là une femme totalement rassemblée. Elle passe du noir et blanc à la couleur. Elle gère son propre mythe avec une absolue maîtrise et en même temps une poésie irréductible. Et puis elle est au bord du périphérique, là où les banlieues vont bientôt souffrir. Elle est près de sa roulotte, près des gens du, voilà, il y a les gens du cirque, et elle fait d'un chapiteau un cirque, mais en même temps un théâtre. Et là, tous les soirs, c'est une communion extatique entre le public et cette femme qui est rassemblée et peut-être en paix avec elle-même à ce moment-là.
Et elle a des héritiers et des héritières.
Oh oui, oui. En chanson.
Beaucoup de chanteurs et de chanteuses se réclament d'elle.
C'est incroyable,
oui,
d'ailleurs.
Absolument.
Hein.
Et beaucoup la chantent. Hmm. Beaucoup, et c'est bien.
Et on peur en même temps, hein, souvent d'aborder son répertoire ou de parler d'elle.
Oui, c'est difficile. Il ne faut surtout pas l'imiter. Il faut faire autre chose.
Il y avait une sorte de gardiennage du temple spontané.
Elle aurait aimé être culte, comme
non.
On dit.
Non, je s'en foutais complètement.
Cette émission s'achève. Pour nous, un peu à regret, je vous dis à dimanche prochain, même heure, bien évidemment. Merci à tous mes invités, Marie Chaix, Didier Varro, Jean-Michel Boris. Terminons en musique, si vous le voulez bien. La Dame Brune, chanson que Georges Moustaki lui avait écrite et qu'ils interpréteront ensemble à Europe numéro 1 dans le 5-6-7 de Jacques Ourévitch. Bonne fin de dimanche, très belle radio.
Pour une longue Dame Brune, j'ai inventé une chanson au clair de la lune. Quelques couplets, si jamais elle l'entend un jour, elle saura que c'est une chanson d'amour pour elle et moi.
Je suis la longue dame brune que tu attends. Je suis la longue dame brune et je t'entends. Chante encore au clair de la lune.
Pierrot m'avait prêté sa plume cette nuit-là à ma guitare de fortune. J'ai pris le la, je me suis pris pour un poète en écrivant des mots qui passaient par ma tête comme le vent.
Je suis la longue dame brune.
mes pensées d'un morceau de voile de brume et de rosée. J'ai fait son lit contre ma peau pour qu'elle soit bien, bien à l'abri et bien au chaud entre mes mains.
Habillé d'un voile de brume et de rosée, je suis la langue d'homme brune de ta pensée. Chante encore au plein de la lune, je viens vers toi, ta guitare de fortune guide mes pas.
Pour une longue dame brune, j'ai inventé une chanson au clair de la lune, quelques couplets. Si jamais elle entend un jour que c'est une chanson d'amour pour elle et moi.
Bonjour, je suis la dame brune, j'ai tant marché. Bonjour, je suis la dame brune, je t'ai trouvé. Fais-moi place au creux de ton lit, je serai bien. Bien à l'abri contre terrain.
C'était Les Enfants d'Europe 1 présentés par Marc Tronchot avec un spécial Barbara.